4 millions de personnes pour l'INSEE, 5 pour la Cour des comptes et plus de 7 millions selon la Fondation Croix-Rouge française. Le nombre de personnes bénéficiant de l'aide alimentaire en France ne fait pas consensus, mais une chose est sûre, il est en augmentation. Covid, inflation, guerre en Ukraine, depuis l'enchaînement de ces crises, les acteurs de la distribution alimentaire accompagnent de plus en plus de personnes. À Strasbourg, entre sécurité sociale de l'alimentation et distribution étudiante, l'objectif est de remplir le maximum de frigos.
Vous écoutez Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. La fin justifie les moyens. Un épisode signé Paul Marcil.
Mais la matière classe. T'as dit c'est du rébeur, mais comme j'avais passé, donc j'ai pris le plus simple. Il y a du lait, une petite bouteille de citron que j'ai eu en cadeau grâce à une application.
D'accord. Non.
Moutarde. Et j'ai un. Et un peu de vinaigrette encore qui me reste.
Ok. Il vous reste plus grand chose
dans le. Non, et là, j'ai deux œufs que je me fais en omelette. Pour midi.
Voilà la liste des ingrédients qui composent le frigo de Corinne en cette fin de mois. À 57 ans, cette habitante de Königshofen ne travaille plus à cause de plusieurs problèmes de santé et vit avec le RSA.
Une fois que tout est détruit, ben il reste entre 200 et 300, ça dépend des, s'il y a des imprévus ou pas.
Il vous reste 200 ou 300 euros par mois.
Oui, mais en gros, c'est dans les 300. Ça dépend parce qu'il faut enlever Internet, et les imprévus, la nourriture, il faut enlever vestimentaire quand je peux m'acheter quelque chose. Hein. Ce qui est très rare. Ça m'est arrivé de louper des repas. Mais j'essayais d'avoir au moins de garder, dans la mesure du possible, au moins un par jour, le midi, quoi.
Depuis deux mois, Corinne remplit davantage son frigo. Elle est l'une des bénéficiaires d'une expérimentation autour de l'alimentation dans son quartier.
Je m'appelle Éloi Navarro, je travaille pour l'association pour une sécurité sociale de l'alimentation Alsace. Je suis salarié de cette association depuis 2024, mais j'ai participé à sa création bénévolement à partir de l'année 2022. Aujourd'hui, je participe à organiser des expérimentations inspirées de l'idée de sécurité sociale de l'alimentation au sein de cette association et à rechercher des structures qui peuvent nous soutenir ou des financements pour tout ce travail d'expérimentation. Au lancement de l'association, on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'on voulait expérimenter ni comment. Et en fait, on s'est adapté aux gens qui voulaient travailler avec nous et aux opportunités. Et sur le quartier de Königshofen, il y a le centre socio-culturel qui s'appelle Par Enchantement, qui fait déjà beaucoup d'animations qui permettent aux habitants de passer à l'action pour monter leur propre projet dans le quartier. Donc ce centre socio-culturel nous a accueillis dans ses locaux et pas mal soutenus. Il y a aussi le Labo des partenariats qui est une association qui soutient les autres associations ou les entrepreneurs avec un objectif d'impact social ou d'impact environnemental dans ce quartier. Et puis il y avait une attente de la ville et des habitants de créer un nouveau marché dans ce quartier. Et donc on s'est greffé sur ces possibilités-là pour venir dans le quartier. Donc on a commencé un tout petit bout d'expérimentation pour seulement 20 habitants, mais on espère que c'est juste un début, où on peut verser tous les mois à ces 20 habitants l'équivalent de 100 euros en bons d'achat à dépenser sur le nouveau marché alimentaire de Königshofen, en contrepartie d'une contribution des participants selon leurs moyens et de temps passé avec nous à réfléchir sur comment tous mieux manger dans le quartier de Königshofen.
J'ai eu connaissance par le biais d'une infirmière qui est de temps en temps là, à la résidence, et qui nous a mis en lien, et voilà. Et j'ai été tirée au sort par chance, de dernière minute, parce que le jour même où il y a eu le premier marché, il y a une personne qui s'est désistée. Et je pense que c'est une bonne chose pour les personnes qui ont déjà peu de revenus. Ça peut être les retraités, ça peut être le RSA, ça peut être tellement de choses. ou même la proximité aussi, tout bêtement, hein, la proximité, hein, pour les gens qui ont du mal à se déplacer. Moi ce qui m'arrange, c'est déjà c'est la proximité aussi, et ça change un peu, et ça me permet de sortir aussi, mais ça me permet surtout de finir les fins du mois qui sont difficiles parfois, c'est ça, parce qu'on le reçoit vers la fin du mois, donc ça tombe bien quoi.
Le lendemain, c'est justement jour de marché pour Corinne.
11,30 euros.
Excusez-moi, je souhaiterais une tourte, s'il vous plaît.
Petite ?
Oui, ça ira. Voilà. Le compte est bon.
Voilà, c'est gentil. Merci à vous. Merci.
Un petit truc de jambon. Cordon bleu. Ça, c'est un deuxième lot de boudin, toujours au châtaigne. Un truc de, aux épices de Noël, un petit pâté. Et c'est quoi qu'il y a maintenant, la surprise ? La fameuse tour que j'ai parlé hier.
Pour beaucoup de personnes du groupe, leur difficulté, c'était de pas avoir accès à des produits diversifiés et de plus avoir accès à une alimentation qui puisse leur permettre de se faire plaisir aussi, avec voilà, avec un bon, des produits de bonne qualité qui ont un bon goût, qui permettent d'avoir plaisir à cuisiner, etc.
Il y a une tourte à tester. Elle est excellente. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des tourtes du commerce.
Si, oui.
Je peux tutoyer pour ça. Oui. Tourte du commerce et à la farce, elle est au milieu.
Ouais.
Quand on enlève la pâte de dessus. Mais là, elle est complètement remplie et avec des morceaux, c'est plus consistant et bourratif. C'est minimum maintenant depuis qu'il y a le marché, en espérant qu'il continuera longtemps. Il y en aura une à deux fois dans le mois que je vais prendre.
Les participants sont aussi contents de la qualité de l'offre de, sur le marché. Mais ils nous disent bien que les produits fermés en vente directe, souvent sont sur un prix qui est plus élevé que ce qu'ils peuvent trouver en grande surface. Que s'il n'y avait pas les bons d'achat alimentaires, ils auraient potentiellement du mal à faire leurs courses sur ce marché, ou en tout cas, ils achèteraient beaucoup moins.
On ne peut pas tout acheter non plus, parce que fruits et légumes, ils sont un peu trop chers.
Ah oui ?
Mais il y a, c'était le mois dernier, je voulais prendre un exemple tout bête, je voulais prendre du raisin, parce que j'adore ça. 7 euros le kilo. D'accord, même avec les bons, mais pas 7 euros le kilo. Je trouve que c'est un peu exagéré.
Et ça montre bien que c'est pas une question de savoir bien manger, comme nous le disent parfois certains acteurs publics de la prévention santé ou autres. Si on ne prend pas en compte l'accessibilité financière, il y a vraiment des gens pour qui c'est compliqué de bien manger. Il y a aussi une image, une pression publicitaire, etc.
Les M&M's Crispy sont là !
Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Jaune ?
Tu m'as dit de dire au monde entier que les M&M's Crispy sont là !
Oh, je voulais dire à tout le monde !
Moi, j'ai un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est de discuter avec un papa dans une réunion qui s'occupait toutes les semaines d'aller faire les courses pour la famille, qui disait qu'il avait peur quand il partait avec la liste de courses, parce qu'il ne savait pas ce que les enfants auraient mis dessus. Et en fait, les enfants voient des trucs à la publicité ou veulent le même goûter que leurs copains à l'école. Et souvent, c'est des produits qui sont pas bons pour la santé et très chers. Et en fait, en tant que parent, on a une pression des enfants qui vient pas en fait de vrais besoins des enfants, qui vient que les enfants ils sont fragiles face à la publicité et à la pression sociale. Et ça arrive ensuite dans les familles pour faire acheter des barres chocolatées ou des marques de céréales qui en fait sont très, à la fois chères et à la fois pas bonnes pour la santé.
Une fois par mois, autour d'Éloi Navarro et de ses collègues, Corinne et les autres bénéficiaires de l'expérimentation participent à des réunions.
Tant qu'on ne pose pas la question aux habitants de qu'est-ce qui leur manque dans leur quartier sur l'accès à l'alimentation, on ne peut pas le savoir. Et nous, c'est aussi notre vocation, c'est de créer des espaces de discussion où les habitants puissent s'exprimer sur quelles améliorations ils voudraient pour l'alimentation à laquelle ils accèdent. Là, c'est hyper enthousiasmant parce qu'on voit que la plupart des personnes du groupe sont hyper motivées par cette idée de passer à l'action ensemble, de créer des nouvelles choses dans le quartier. Il y a par exemple une idée de cantine pour les petits déjeuners où tout le monde pourrait venir prendre un petit déjeuner à prix libre parce que c'est un gros souci pour les enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école le matin sans avoir pris de petit déjeuner parce que les parents soit n'ont pas le temps, soit n'ont pas les moyens d'acheter un petit déjeuner décent. Et en fait, ça veut dire derrière beaucoup d'échecs scolaires parce qu'en fait, on n'apprend pas le ventre vide. On a tous un avis éclairé sur ce que ça veut dire de bien manger, parce qu'en fait on mange tous, on connaît tous les recommandations de santé liées à l'alimentation, 5 fruits et légumes par jour, voilà, tout le monde est au courant, et en fait tout le monde est capable de participer à un travail démocratique sur comment on veut manger à l'avenir, et du coup c'est beaucoup plus facile d'embarquer les gens sur un engagement sur l'alimentation que sur d'autres sujets.
Je suis Laurence Grandchamp, je suis maîtresse de conférences en sociologie à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Strasbourg. Ce que j'observais, c'est que l'alimentation était de plus en plus saisie par des acteurs du travail social ou du domaine du social. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que après le confinement, il y a eu effectivement ça a révélé et accélérer des problèmes de précarité alimentaire, donc d'accès à l'alimentation. Mais en dehors de ça, il y a aussi l'alimentation qui est vue par ces acteurs du travail social comme un enjeu, un support de socialisation, de lutte contre donc, l'exclusion, contre l'isolement, donc pour favoriser tout ce qui est lien social.
Laurence Grandchamp donne un cours sur la précarité alimentaire à ses étudiants de master.
Je trouvais que c'était totalement pertinent d'introduire ces enjeux-là dans les enseignements à des gens qui vont travailler dans l'intervention sociale, dans des centres sociaux et culturels, dans des associations... ou dans des collectivités locales.
Des étudiants mobilisés face à la précarité alimentaire, j'en ai rencontré à Strasbourg. Au cœur du quartier du Neudorf, le collectif Copain propose des paniers alimentaires préparés par des étudiants pour des étudiants. Amré, 20 ans, est le coprésident de l'association.
Donc ça va être des fruits et légumes, donc on aura carottes, pommes de terre, pommes, bananes. Ensuite on aura des spaghettis ou des pâtes, ce genre de choses. Des conserves, donc au choix des champignons ou des haricots. Ensuite, on peut avoir du lait ou du jus. Donc, c'est au choix qu'on a ça, des céréales. Et après, on va avoir tout ce qui est hygiénique. Donc, pour les femmes, on va avoir d'office serviettes hygiéniques ou culottes menstruelles. C'est au choix de ce qu'elles veulent prendre. Et ensuite, on aura un savon ou dentifrice.
Okay. Et donc, tout ça est gratuit?
Tout ça gratuit, ouais. Okay. Tant que tu es étudiant entre 18 et 26 ans, tu peux venir bénéficier de l'aide alimentaire.
D'abord, bonsoir, je m'appelle Salim, je suis étudiant en psychologie en deuxième année, je suis algérien, je suis ici depuis 3 mois. Okay. Moi, les copains, je les ai connus sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ça va faire maintenant, on va dire, presque 2 mois que je viens, okay. À peu près. Ah ouais, à peu près comme ça, 2 mois. Généralement, on donne des pâtes, des conserves, du lait, des pommes de terre et tout, des légumes, des fruits, ça nous aide un petit peu.
On a une distribution de 230 environ en moyenne, donc toutes les semaines. Et on avait refait du coup le groupe WhatsApp de bénéficiaires, donc on était à 400. On était à 400 début du mois de septembre et on arrivait à presque 700, ça augmentait 300 quoi.
C'est quelque chose qui augmente ou
ça augmente, ouais. Ça augmente beaucoup. On voyait beaucoup de personnes qui ne revenaient plus. Alors, on va dire que là, début du mois de septembre, la moyenne était plus sur du 240. Et là, ça descend un petit peu, mais je pense que c'est plutôt vers à cause du temps dehors, je pense. C'est plus ça qui arrête les gens, on va dire.
Mais les besoins...
Les besoins, elles restent pareilles. Même pire, des fois même. Les gens demandent même à avoir 2 distributions par semaine.
S'il n'y avait pas cette aide-là, systématiquement, je vais sauter des repas. Je vais tourner vers une alimentation moins saine, malsaine. Voilà, c'est ça.
Ça me touche, je vois les gens et des fois ils viennent, qui sont même pas inscrits, et ils viennent, ils me disent j'ai vraiment besoin de ce panier et ça me touche. Et certaines personnes, je leur dis oui parce que vraiment, tu peux pas laisser quelqu'un mourir de faim, on va dire. Mmh.
on est clairement inquiet parce que toutes les structures d'aide alimentaire voient le nombre de personnes qui en ont besoin augmenter tous les ans. Et on a de plus en plus de mal à faire face parce qu'en face, les budgets pour les financer ne suivent pas.
Éloi Navarro, salarié de l'association pour une sécurité sociale de l'alimentation Alsace.
On parle déjà beaucoup du problème d'accès à l'alimentation régulièrement quand les structures d'aide alimentaire sont dans la galère. Mais peut-être qu'il faut changer de regard aussi. Souvent, c'est abordé comme un problème individuel. On se dit que les personnes individuellement sont entre guillemets responsables d'être pauvres. Et on aide des personnes individuellement. Pour moi, c'est un problème collectif. Si aujourd'hui les gens ne peuvent pas s'acheter à manger, c'est beaucoup parce que les salaires ne sont pas assez élevés, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent et qui vont quand même à l'aide alimentaire. C'est parce que les loyers sont prohibitifs par rapport aux moyens, notamment des retraités, des étudiants, etc. Donc il y a des problèmes structurels qui font que les gens sont coincés sur leur budget alimentaire et les solutions doivent aussi être collectives finalement.
Effectivement, il y a une augmentation de la demande auprès des acteurs historiques de l'aide alimentaire, mais il y a aussi un questionnement vis-à-vis de ces acteurs historiques pour faire évoluer leur conception même, enfin la façon dont ils approchent l'aide. En fait, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est pauvre et qu'on n'a pas de quoi manger qu'on peut pas choisir. En fait, ça renvoie à...
Laurence Grandchamp.
Enfin, derrière, il y a un questionnement sur quelle aide, comment mettre en œuvre une aide qui soit moins... reproductrice de violences, des violences alimentaires. Alors, je veux pas, dans mon discours, je veux pas jeter la pierre hein, à tous les bénévoles, à tous ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie pour ça. Il y a une anthropologue qui s'appelle Bénédicte Bonzi qui fait vraiment référence, enfin qui est une référence par rapport à ça. Donc Bénédicte Bonzi, elle a publié un ouvrage où elle parle de violences alimentaires. Elle a été pendant plusieurs années bénévole pour les Restos du Cœur, donc elle a observé comment ça se passe, les distributions, etc. Et elle décrit bien, enfin elle explique très bien ce que c'est que ces violences. C'est pas simplement de dire à quelqu'un, qu'un bénévole dise, écoute, toi t'as rien, si t'as pas à manger, pourquoi tu manges pas ce que je te donne? C'est pas ça, c'est beaucoup plus systémique en fait. C'est plus dans, par exemple, le fait que l'aide alimentaire soit approvisionnée par le gaspillage, enfin par tout ce qui est le surplus des supermarchés, et que ces acteurs, tous ces supermarchés, avec depuis la loi Garot, hein, donc ces supermarchés avant ils payaient pour qu'on leur enlève tout ce qui était donc invendu, etc. Et maintenant, donc ils appellent des acteurs qui viennent chercher et c'est défiscalisé. Et donc en fait, ils ont un bénéfice direct. Via la défiscalisation, alors qu'avant, il devait payer.
Et souvent, en étant sur l'urgence, où typiquement on va donner des colis d'alimentation à des familles, on est dans une situation où on ne laisse pas l'opportunité aux familles de rendre ce qu'on leur a donné. En fait, pour qu'on soit dans un accès digne aussi à l'alimentation, il faut que quand on reçoit, on puisse donner en échange, en fait. Sinon, on met les personnes dans une situation de faiblesse, d'humiliation. Et en fait, c'est rajouter un problème au problème que ces familles ont déjà, de ne pas leur ouvrir la possibilité d'être elles aussi participantes, actrices, et de pouvoir donner de leur temps et de leurs compétences pour participer à tous mieux manger.
À Königshofen, l'avenir de la sécurité sociale de l'alimentation est incertain.
Aujourd'hui, on n'a aucune piste de financement public qui est pour la suite. C'est-à-dire pour au-delà de septembre 2026, on ne sait pas, on n'a aucune certitude. Qu'est-ce qui va compléter les contributions des habitants pour financer ce modèle d'expérimentation? Donc on n'est pas sûr de pouvoir continuer. Et du coup, il nous reste presque un an pour démarcher voilà, un maximum de structures et voir qui est prêt à travailler avec nous sur ce droit à l'alimentation.
C'était Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. Cet épisode a été fabriqué et imaginé par Paul Marcil en novembre 2025. Coordination, Céline Asselot et Thomas Rozek. Mixage, Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.